Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous, j'espère que vous
avez... Attends, j'ai pas fait mon édito.
Vas-y.
Maintenant, j'ai un édito, genre. Bonjour. Cédric Lapiche.
On passe tout de suite au portrait de Navo.
Et en intro, genre. Cédric Lapiche, un péril. Jeune. Dans sa tête, une véritable auberge espagnole. Regardons bien la caméra. Celui qui, tu sais, ce qui est un prompteur, en fait.
Ouais,
celui
ouais.
qui nous montre ce qui le meut. Aujourd'hui,
qui sait
nous raconte une vraie salade grecque. Il connaît. Il est juste allé sur filmographie ou IMDB.
Il a fait un paragraphe avec.
Il a juste écrit. Tu fais, mais c'est un exercice qu'on faisait en CM2, ça.
Non. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon moment. Vous l'avez deviné, on est avec Cédric Lapiche et Navo. J'espère que ça va bien. On s'applaudit parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en podcast audio, donc aussi.
Ok. Bon, mais c'est quoi le rapport? C'est chaque fois que tu dis pour les gens en podcast audio, on applaudit. Je
suis ouais, mais ça donne une ambiance. Les gens ils sont là, genre, oh, il y avait vraiment une ambiance dans ce studio, tu vois.
Ah ouais. Mais des faux.
Oui, je vois. Allez, faux applaudissements.
Du zénith, genre, vraiment.
Merci. Ouais, je mets des bruits.
Cédric Lapiche.
Je mets des bruits du zénith de Paris.
Allez
voilà. Non, on est hyper heureux de te voir, de te revoir, de toute façon, à chaque fois de te revoir. C'est toujours un plaisir.
Partager.
Cédric, on te doit tellement. On te doit tellement. Grâce à toi, on existe. Donc...
Non.
Non, si. Alors, non. Pas de fausse modestie, je te le dis sincèrement. Tu fais partie justement de nos inspirations. Pour nous, c'est vraiment un moment. Enfin, pour moi, c'est un... Navo, il s'en fout un peu. Enfin, il fait le mec qui s'en fout, mais il s'en fout pas du tout.
Je m'en fous pas du tout.
Je m'en fous pas du tout. Mais non, mais tu sais, t'es là. Tu fais Brad Pitt dans Ocean Eleven. Tu
bah, c'est pour l'impressionner. J'espère.
Ouais, voilà.
Je vais dans la saison 2 de Salade Grecque, moi. Putain, c'est un super comédien. Je suis arrivé, je fais semblant d'être fatigué en disant on enregistre tôt. Et tout d'un coup, bam, l'énergie.
Ouais,
je
dis, bah,
le mec, c'est
le
un
gars
ouf.
Est vif. Non, on te doit tellement. Et vraiment, c'est un plaisir de te recevoir.
Ben, merci, en tout cas.
Un des films qui nous a... Alors, on va en parler, mais on n'est pas voulu parler que de ça, mais il y a vraiment un film que tu as toujours su, justement, insuffler la jeunesse dans tes films. Vraiment, tu as su nous... Déjà, la filmer, la jeunesse, mais surtout, lui insuffler l'envie de faire des trucs. Et pour ça, merci.
Merci à vous.
Ouais, ça fait longtemps maintenant, il sait dire merci aux compliments et tout.
Merci.
Il fait pas genre, mais non. Il a tenté un mais non, il a fait, ah ok, non.
Est-ce que tu as toujours su prendre les compliments ou c'est un truc que tu as dû apprendre à faire?
Non, moi je trouve que y a vraiment quelque chose qui fait que quand on reçoit ces compliments, ça fait toujours plaisir. C'est donc les gens, parfois, je sais pas, des gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent oui, merci, je sais que ça vous embête. Je dis non, ça ne m'embête pas du tout. Ah, ouais. Non, ça fait super plaisir.
C'est la phrase de Kian, c'est comme un massage. C'est pas parce qu'on t'a déjà fait des massages que tu n'aimes pas quand on
ouais,
te fait
ouais,
un massage.
Absolument, ouais. Non, c'est...
Il est fort, hein. Il peut être co-scénariste avec toi, il peut travailler pour toi. Hein.
J'aime bien faire des images, mais c'est parce que j'ai vu l'auberge espagnole. Je me suis dit, on peut faire des images en fait dans la vie.
Waouh. C'est magnifique ce qui se passe.
Bah ouais. Non, mais c'est la rencontre. Et puis je suis toujours un peu intimidé par la Cédric. J'ai peur de le faire chier. Bien sûr, moi j'ai peur de le faire chier. C'est vrai que j'ai peur de te faire chier.
Ah ouais.
Ouais, de ouf. Je te kiffe, hein, tu vois, j'adore et tout. Je suis hyper décontracté avec toi, mais je me dis, j'ai pas envie de le faire chier quand même.
Il sait déjà tout.
Il sait déjà tout.
Qu'est-ce que je peux bien lui dire? À part qu'il est super.
Comme
on fait que ça pendant une heure.
Bah ouais, bah c'est super. Bienvenue super. Dans un super c'est moment resté. Pour Cédric Lapiche.
Mais t'es super. Bienvenue dans l'émission Cédric Lapiche. Je dis merci les gars en avance pendant une heure.
J'aimerais
Cédric...
qu'on partage un peu
non,
des.
Excuse-moi, j'ai pas
vas-y,
fini, moi,
vas-y, continue.
Cédric, je t'adore. Cédric, pour moi, t'es la personne qui nous a montré qu'on pouvait faire quelque chose. C'était possible, tu vois, quand on voit l'auberge espagnole, on s'est dit, ah, on a le droit de faire ça. Et c'est important de donner l'autorisation aux générations suivantes, puisqu'on a 20 ans d'écart et que du coup, je suis un peu comme un Pierre Ninet qui aime sa Virginie Efira. C'est magnifique. C'est la fin de mon édito.
Retrouvez les chroniques de Navo. Navo désingle le cinéma.
Allez, c'est parti. Clapiche. Clap-ish. C'est marrant ce que clap-ish, ça veut dire tu clapes, mais...
Ah, ish, ouais, ish.
Une sorte de clap.
Ouais.
Ouais.
Il a clap-ish. En plus, c'est souvent, il y a des gars qui clap-ish. Tu vois.
Ouais, vite fait.
Quand
ouais.
Ils sont pas très bons encore, ils font là.
Ouais, mais ils veulent pas niquer les oreilles du comédien.
Je n'ai pas au son le clap là. Mais tu t'étais pas dans le cadre. Oh merde, je clap piche.
Alors, tiens, on m'en parlait de ça. Le clap. Non, mais c'est intéressant en tant qu'acteur. Non, c'est un vrai sujet en tant qu'acteur. Non, parce que des fois, les claps, pour expliquer aux gens, il faut synchroniser le son et l'image. Donc, on met un clap et ça fait un grand bruit, un bruit très strident pour que ça fasse ping sur le son numérique, ça fasse bing, ça fasse une grosse trace. Et comme ça, on peut synchroniser les pistes son et l'image. Mais des fois, le gars, il te clap, mais t'es là, t'es dans une scène hyper émotionnelle. La caméra, elle est comme ça sur toi. Et le mec, là, il fait. Et deuxième prise. Ton oreille, il fait pouh! Et là, genre, merde, voilà. Je vais être dans une émotion maintenant.
Trop dur, la vie de comédien.
La vie, c'est très dur.
C'est ça, après, c'est ça vos problèmes?
Bah, non, mais le vrai pire, c'est après, c'est toi, t'es là, tu veux juste qu'on t'offre un café, tu vois, t'es là, t'es bien.
C'est trop dur. En commentaire, dites-nous si vous aussi, vous avez ce genre de problème.
Si jamais vous aussi, vous êtes dans une vie où vous passez le marteau-piqueur et vous estimez que notre vie est dure.
Ouais, c'est la même chose, en fait, le bruit d'un marteau-piqueur.
C'est la même chose.
Briller, c'est toute la journée.
Ah ouais, c'est terrible.
Un clap un peu trop fort.
C'est terrible.
Moi, je trouve que c'est la même chose.
Non, mais il faut
je
parler des vrais problèmes.
Je pense que tu es à la retraite à 36 ans, toi. Je pense que tu as le métier le plus pénible.
Il faut parler des vrais problèmes.
On parle des vrais problèmes.
Comment on fait pour.
Pour éviter le bruit des claps. En fait, il ne parle que de ça, ça fait 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution?
Comment on fait pour.
Il s'est juste mis en spectateur.
Moi, je suis venu pour me marrer, moi. Je vous écoute.
Ils m'ont pas posé une question. Apparemment, lui, il essaye de me parler, l'autre l'interrompt tout le temps.
Comment on fait pour commencer à écrire une histoire? Là, en ce moment, tu écris un nouveau film, par exemple.
Ouais.
Et comment on fait au bout du quasiment 12e film, je crois?
Non, 15e.
15e film, ouais, pardon. Ouais. Comment on fait pour à chaque fois se dire, tiens, on repart à zéro, on écrit une histoire? Comment se dire, c'est la bonne histoire, tout ça?
En fait, c'est vraiment. C'est juste une histoire d'envie. On se dit de quoi j'ai envie, quoi.
Mmh.
Et c'est une question très bête, mais à chaque année qui passe, il y a des envies différentes. Et donc, il y a des... Et je trouve vraiment qu'un scénario, c'est une boîte à envie. Et donc, on met des envies dedans. Et donc, ça peut être... On peut partir d'un lieu de tournage. J'aimerais bien tourner en Bretagne. Ou,
ah ouais.
Ou une envie d'acteur en disant, j'aimerais bien tourner avec Pierre Ninet. Et puis, on part de ça, en fait. Et puis ensuite, il y a l'idée d'acteur avec la Bretagne, avec le fait de parler d'un thème spécial et où il y a d'un coup, ça fabrique une histoire. Et ce qui est assez étrange, parce que donc là, en ce moment, là, j'écris un scénario et c'est un film d'époque. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un film d'époque parce que j'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai fait Le Péril jeune qui était déjà un film d'époque parce que ça parlait des années 70. Mais voilà, j'avais envie de faire ce qu'il y a dans un film d'époque, avec les costumes, avec le fait de transposer la réalité, parce que moi, j'ai fait quand même beaucoup de choses qui sont très, très dans la réalité.
Ouais.
Et là, le fait de parler de l'époque, ça met un peu ailleurs, disons. Donc, j'avais envie de ça. Donc, ça, c'est l'impulsion de départ. Et une fois que je me suis dit ça, je me suis dit, OK, j'ai envie de parler de l'époque avant 1900. Qu'est-ce que je raconte? Donc, je suis parti de ça. Et ensuite, je déroule et je trouve une idée d'histoire. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, c'est plus moi qui fais l'histoire, c'est vraiment l'histoire qui se fait, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai trouvé trois machins, en fait, je suis ces trois machins-là. Et
on n'a pas besoin d'avoir mille idées à la base. Pour
non, c'est
se
juste
lancer.
D'essayer de trouver la logique de ce qu'on a donné au départ.
Ah, tu dis, j'aimerais bien qu'il y ait tel décor. À un moment, il va se passer ça, c'est sûr, ça me fait trop
voilà.
Qu'il se passe ça. Et ouais. Après, tu dis, bon, bah, maintenant, il faut bien qu'il se passe quelque chose avant et après, c'est le truc que je veux.
C'est un peu ça.
Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout.
Ben non, ça ne l'est pas parce qu'ensuite, il y a vraiment du travail et qu'ensuite, c'est des mois de travail pour arriver à trouver une cohérence et faire en sorte que ça ne veuille pas rien dire, quoi. Mais le point de départ, c'est le désir, quoi. C'est l'envie de quelque chose. Et puis ensuite, c'est vraiment une somme de désirs qui s'additionnent les uns aux autres, quoi.
Et comment tu fais pour éviter le remplissage? C'est-à-dire que tu te dis, à un moment, il va se passer ça. Ça va être ça, j'ai trop envie de le faire. Puis il va se passer ça. Entre les deux, il faut qu'il se passe quelque chose. Comment tu fais pour que entre les deux, il se passe quelque chose?
Ça, je dirais que c'est le travail. C'est-à-dire qu'il y a le travail du scénario, puis il y a le travail du tournage, et il y a le travail du montage. Et c'est quand même un travail soustractif. C'est-à-dire qu'on propose des choses, et puis on se dit, non, ça ne marche pas, donc on l'enlève du scénario. Puis on filme un truc, et on se dit, non, ça ne marche pas, et on l'enlève du montage. J'ai l'impression que ce travail des choses qui ne vont pas entre elles, c'est vraiment le travail du scénario, le travail du...
Ouais, mais du coup... Est-ce que tu as une technique, un truc? Parce que moi, quand tu dis ça, je me dis, OK, j'ai mon A, j'ai grave envie de le faire, je le vois dans ma tête, j'ai mon B, bon, entre les deux, faut qu'il se passe quelque chose. Et ce A prime machin qui va aller jusqu'au B, faut pas que je le... Pas que je le bâcle en disant vivement le B, tu vois, faut que j'avance.
Yo, alors juste pour clarifier un peu ce que demande Navo, en fait, il demande comment on construit des péripéties organiques. Si vous voulez, vous avez un point A, un personnage rentre dans un château. Et en fait, vous avez déjà le point B, parce que vous voulez faire un point A, vous voulez un personnage qui rentre dans un château, et vous voulez un point B, le bal, avec l'intérêt amoureux sur une musique de Queen. Donc une idée un petit peu originale, un petit peu burlesque. Et en gros, l'idée, c'est comment vous reliez l'entrée dans le château jusqu'au bal sur une musique de Queen. Et ce que Navo demande, c'est finalement, on a souvent un A et un B, mais entre les deux, bah, c'est un peu du vent. Ou alors, c'est des choses qu'on essaie de remplir avec, parfois de l'exposition, des explications, finalement des choses un petit peu futiles. Et ce que Navo demande, c'est comment rendre solide ces péripéties afin d'avoir un chemin organique et naturel du point A, le personnage rentre dans un château, au point B, il y a un bal sur une musique de Queen. Donc en fait, finalement, on va avoir une relation de cause à effet. Il se passe ça, mais il se passe ça, donc il se passe ça, mais il se passe ça. Et la question que Navo pose, c'est comment on crée ça? Comment on crée ces péripéties? Finalement, c'est A prime, A double prime, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je voulais juste être sûr que ça soit bien clair pour tout le monde, vu que c'est de la narration, c'est de la dramaturgie, c'est des trucs assez complexes, et peut-être ça pouvait pas être clair pour tout le monde. Donc voilà, on est bon, on peut continuer l'émission, tout va bien.
Ah non, il faut qu'il soit original, le A prime.
Non,
soit...
mais c'est ouais. ça c'est vraiment le travail.
C'est, pas le... c'est le boulot.
Quand on lit le scénario, puisqu'on n'arrête pas d'écrire et de lire, on essaye de prendre du recul en se disant, ben ouais, le A prime, là, il est raté, donc je vais faire un autre A prime. Et quand je dis c'est ça le travail, c'est ça le travail de l'écriture, où il y a ensuite le travail de la dramaturgie, où on se dit il faut qu'il y ait quand même une espèce de mini-suspense, ou au contraire, c'est un film très contemplatif, on s'en fout du suspense, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche. Le début de Encore, par exemple, c'est un film où je m'étais dit au début du film, je voudrais que ce soit non pas muet, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de dialogue. Et qu'on soit que sur la musique et la danse, et une narration qui n'est pas dite par des dialogues ou par des échanges entre des acteurs. Ben voilà, c'est un principe de départ, et je me dis, et ça, je me dis ça dès le départ, et je ne sais pas si ça va durer 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes. J'aurais bien aimé que ça dure 20 minutes, ça dure en fait 15 minutes.
Les artistes, c'est ça, à la base, normalement c'était dialogué, mais au bout d'un moment, il a fait
ah oui,
ça fait une heure et demie.
Mais en fait, les gens,
au bout d'une heure et demie, il a fait, bon bah vas-y, ça sera un film muet alors.
Genre, non.
Mettez-le en noir et blanc.
Et donc voilà, en tout cas, voilà, il y a une espèce de principe de départ, et ensuite on juge tout le temps, est-ce que ça tient le coup. Et il y a un côté donc un peu contemplatif. C'est pas un film comme un James Bond, on fait exploser tout, et on se dit, mais pourquoi ça a explosé? Et puis ensuite, on explique. et là, c'est vraiment un truc où...
Expliquer James Bond en deux phrases.
Alors que là, c'est le contraire. Ça explose pas, et on se dit, pourquoi ça a pas explosé? Et là, on voit pourquoi c'est mieux des fois que ça explose pas.
Mais quand même, il y a cette notion de suspense qu'il faut avoir, quoi. Et donc, du coup, il y a beaucoup de questions à se poser sur comment je fabrique cette intrigue. C'est ce qui intrigue le spectateur, quoi.
Ce qui le meut.
Ouais.
Placer le spectateur en enquêteur, c'est important. Un peu en qu'est-ce qui se passe à l'image, j'ai envie de comprendre qui sont ces gens, quels sont leurs problèmes.
Moi, je dirais que c'est juste l'envie de rester, quoi. Il y a une phrase magnifique de Boris Vian, il dit « Le film était tellement mauvais que les gens faisaient la queue pour sortir. » Et pour moi, c'est quand même un truc un peu réel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, mais moi, j'ai envie que le spectateur reste dans la salle. Et donc, du coup, cette notion de... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, ce truc qui fait qu'on est intrigué, qu'on est... Ah, c'est pas vraiment la notion de suspense.
Ouais, c'est pas forcément du suspense. Parce
non,
que justement,
parce que
j'allais dire, l'auberge espagnole, je suis pas dans un suspense.
Non, c'est ça, ouais. Donc moi, je fais pas des films d'action et je suis pas dans le suspense fou, mais...
C'est trouver le moyen que la personne a envie de regarder. Bah,
ouais, c'est ça.
Après, quoi.
L'empathie, par exemple, pour Xavier, est une sorte d'équivalent de suspense. Tu as une empathie pour ce personnage pendant le personnage. Tu dis, mais ce gars-là, c'est moi, c'est dans sa manière de penser. Tout de suite, il a des codes de pensée où tu te dis, mais ce gars-là, on pense un peu la même chose. Du coup, j'ai l'impression de l'aimer parce que, tu vois, cette empathie, elle peut tenir le spectateur aussi. Il n'y a pas besoin de faire. J'aimerais expliquer un peu aux gens pour le suspense, pour expliquer un peu, parce que c'est un peu technique. Parfois, on dit, il y a du suspense, il n'y a pas de suspense. Il y avait cette.
Parce qu'on a un public de gros teubés, hein, vraiment. On est obligé
non, mais il y avait cet exemple.
Un film, qu'est-ce qu'un film?
Un peu didactique pour les gens qui sont pas vraiment du métier et qui nous écoutent. Il y avait cette, je crois que c'était cette anecdote d'Hitchcock qui disait, il filmait une scène de deux gars qui parlaient dans un café. Ça durait 15 minutes et du coup, c'était un peu chiant. Donc les gens, ils parlent et tout. Donc c'est juste un dialogue. On a juste un... Et en fait, si on fait un plan de quelqu'un qui vient mettre une mallette en dessous de la table, qui règle une bombe et qui met la bombe en dessous de la table, et on remet le même dialogue pendant 15 minutes, et ben quand tu vas regarder le dialogue, tu vas être un peu en situation de « Attends, il y a une bombe en dessous de leur table. » Quand est-ce que... Et du coup, les 15 minutes passent 10 fois plus vite. Parce qu'il y a un engagement, on se dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» Un enjeu. Et donc, c'est ça dont on parle, c'est l'enjeu, le suspense ou l'empathie. Voilà, j'ai juste ramené ça. Et c'est vrai qu'en tant que scénariste, on doit trouver un truc quand on fait regarder le gens de dire « Oh, attends, là, il y a une situation, je veux savoir ce qui se passe. »
C'est vrai.
Juste rappeler un peu aux gens. tu me juges.
Je ne te juge pas du tout.
Tu me juges tellement.
Mais non, mais parce que moi, j'ai toutes les stats de nos spectateurs. Il y en a 10% qui sont très, très imbus d'eux-mêmes. C'est ceux qui me préfèrent d'ailleurs. Et eux, ils détestent quand t'expliques des trucs, mais il faut bien expliquer aux 90%.
Bah oui, mais oui,
donc pour eux, oui. Je dis, vous n'êtes pas des teubés, vous inquiétez pas. Vous saviez très bien ce que c'était le suspense. Et vous la connaissiez, l'histoire d'Hitchcock, de toute façon.
Et comment on fait
C'est des génies.
Là, t'es Cédric Lapiche, t'as pas fait encore ton premier film. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est-à-dire, t'es réalisateur, t'as envie d'être réalisateur.
Mais lui, il a fait une école.
J'ai fait la fac de cinéma, Paris 3 et Paris 8. J'ai eu une licence et une maîtrise de cinéma, et ensuite je suis parti 2 ans à New York.
Ok, mais tu reviens en France.
Et je reviens en France à 25 ans.
Et à un moment donné, on est jeudi à 17h, qu'est-ce que tu fais? Tes journées, quoi. Parce que t'as pas rencontré Bruno en ce moment-là.
Non.
Bruno, ton producteur.
Ouais.
Donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu vois, c'est genre,
En fait, alors, j'essaye de
T'es en voie d'être Cédric Lapiche.
Ouais, j'essaye de faire des courts-métrages, j'essaye de gagner ma vie, ce qui n'est pas la même chose. Donc, j'essaye de trouver des boulots pour gagner ma vie. Et en parallèle, j'essaye d'écrire des histoires.
C'est quoi? Comment t'écris une histoire à ce moment-là? Parce que là, t'as pas de deadline, t'as rien, t'es mec seul chez toi.
Bah, c'est pareil, c'est l'histoire de l'envie, quoi. C'est-à-dire que là, à 25 ans, quand je reviens de New York, je fais mon court-métrage, et je mets genre 2 ans à le faire, ça met assez longtemps de trouver l'argent, d'écrire l'histoire, puis de trouver l'argent.
C'est très long.
Ça s'appelle « Ce qui me meut », donc ce film. C'est un film sur Étienne Jules Marais, celui qui a inventé le cinéma avant les Frères Lumière. Et c'est lui qui a vraiment inventé l'objet caméra.
Il
étudiait la chronophotographie. C'était un médecin, en fait, qui étudiait la locomotion et la physiologie humaine. Et le déplacement des animaux, enfin voilà. Et il a inventé un procédé pour pouvoir étudier le galop du cheval ou la locomotion. Et en faisant ça, il a fabriqué un corps de caméra. Et ensuite, il a donné aux Frères Lumière cette chose-là. Et eux, ils ont rajouté les perforations dans la pellicule. Donc en fait, ils ont pris le même objet, mais ils l'ont amélioré. Et en fait, c'est devenu l'invention des Frères Lumière. Mais donc, c'est vraiment une sorte de médecin qui est à l'origine du cinéma. Et donc, moi, je me dis, ça serait intéressant de faire un documentaire sur ce personnage-là. Donc, je repars un peu de ce que Woody Allen avait fait avec Zelig. Il avait fait un faux documentaire. Et moi, je me dis, ça serait intéressant de faire un faux documentaire sur celui qui invente le cinéma. Et donc, voilà, j'ai fait ça.
Parce que du coup, normalement... Vous ne pouvez pas le filmer.
Non, on ne peut pas le filmer.
C'est ça qui
est... Il allait inventer le truc.
Aux gens,
Il allait inventer le truc qu'il allait filmer, mais il n'a pas...
Et là, tu le filmes en train de l'inventer. Ouais,
c'est ça.
C'est-à-dire qu'à la fin, il peut dire « Ah voilà, maintenant, on peut commencer le docu. »
Il était là pendant le documentaire, il est là. Imagine, non, mais attends, mais ça peut être vachement bien pour les chevaux, ce que vous avez là. C'est quoi?
Pour étudier les chevaux. Il vole le documentaire.
Du coup, il y a un passé aux Frères Lumière, on va croire que c'est moi. Ce qui est drôle, c'est que pendant le film, personne... ne pense à ça.
Mais ouais, c'est ça qui est... qu'on a l'habitude des films d'époque, etc.
Ouais, ouais.
C'est censé être un documentaire.
Ils disent, ah, tiens, c'est marrant, ils ont filmé ce moment.
Parce qu'il y a un paradoxe temporel, du coup, les gars. Parce que j'étais dans un documentaire et là, le gars
c'est sûr que personne ne voit. Si tu dis, regardez cette photo, c'est quoi? C'est l'inventeur de le moment où le mec est en train d'inventer la photographie. Je pense que personne se dit, on va voir la photo du moment où il invente la photographie.
Et donc, tu travailles sur ce faux
donc,
documentaire.
Je travaille sur ça et il y a un truc que, d'ailleurs, j'ai découvert à ce moment-là, c'est que je passe vraiment 6 mois. À aller dans des bibliothèques, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, j'essaye de découvrir qui est ce Étienne Jules Marais, je me documente, je vais...
Comme ça, sans aucun... Enfin, juste le but de faire ce court-métrage, mais t'y vas, quoi.
C'est ça, et je passe beaucoup, beaucoup de temps à me documenter, à voir que, je ne sais pas, il y avait des trucs qui existaient sur le fait que sur les vases grecs, quand on montre les athlètes à l'époque grecque, on les prend toujours au même mouvement. Quand on les montre en train de courir, ils sont toujours en l'air avec les jambes écartées. Et donc, je me plonge dans ça. Et donc, pendant 6 mois, je suis immergé dans ça. Et puis, ça fabrique une histoire et ça fabrique ce petit film qui dure 20 minutes.
Au moment où tu fais ce film, t'as un objectif clair ou juste tu veux faire un film et basta?
Ah non, je veux faire un film.
Une fois qu'il est fini, qu'il est monté, je sais à qui je vais l'envoyer ou je sais où je, à non, quel non, festival je vais le présenter.
C'était hyper fermé en plus à l'époque. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Tu peux montrer à qui tu veux.
Bien sûr, non, il n'y avait pas Internet.
Et où tu trouves ton équipe aussi? Parce que je sais que beaucoup de gens, ils sont 18% de gens qui nous regardent, qui qui se demandent mais où est-ce qu'on trouve les gens? C'est le plus dur en fait. Genre, salut, je suis scénariste, mais où est-ce que je trouve un réal et un comédien?
La réponse à tout ça, c'est les festivals de courts-métrages. C'était un peu l'époque où ça se crée. On est possiblement dans l'époque où ça se referme, mais à l'époque, il y a vraiment c'est les années 80, donc, et où il y a beaucoup de festivals, notamment en province. C'est le début du festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de Lille. Et donc, du coup. Moi, en allant dans les festivals de court-métrage, parce que donc, j'avais fait un court-métrage dans le cadre de mes études aux États-Unis, donc je vais montrer ce court-métrage qui s'appelle In Transit. Et puis, du coup, je rencontre des monteurs, des chefs opérateurs, des
qui
gens du cinéma.
Qui sont à peu près au même stade que toi.
Ouais, c'est ça.
Ou un petit peu plus élevé. Mais en tout cas, tu rencontres des gens qui sont eux aussi en train de faire des courts-métrages. Et donc,
qui ont envie comme toi.
C'est ça, futurs, ouais. Et du coup, j'ai rencontré notamment ma script, Marie Bermillard, comme ça. Qui, elle, me présente à des gens. Je connaissais quelqu'un du lycée, Dominique Collin, qui est devenu mon chef opérateur.
Et à ce moment-là, bosse sur au moment où tu fais Ce qui me meut.
Sur Ce qui me meut, c'est lui qui fait l'image. Et il sortait de l'école Louis Lumière. Donc lui,
tu
voilà.
Tu lui as dit, tu sais que ton école, elle devrait s'appeler Marais.
C'est vrai.
Mais donc, ah ouais, bah ouais. Et on va le montrer au monde.
Putain, t'as raison.
Mais donc voilà, on a fait ça, et puis c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser une caméra manivelle pour avoir un peu un look de l'époque. Donc on a tourné avec une caméra manivelle, et ce qui était drôle, c'est qu'on faisait, on avait le principe de faire des choses mal faites, bien faites. On avait une espèce d'expression comme ça, où on faisait par exemple un panoramique, donc on fait tourner la caméra de gauche à droite, et où c'est pas complètement fluide. Mais par contre, si c'est mal fait, ça marche pas. Il faut bien faire le truc mal fait. Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on invente pendant le tournage. Et c'était vraiment très joyeux ce tournage, mais très compliqué à faire, mais très joyeux parce que c'était très créatif. Alors qu'on n'est que en train de parler de quelque chose qui a été inventé 100 ans plus tôt, quoi.
Et avec pas de moyens, du coup.
Et avec, alors, tout le monde pour un court-métrage, il y avait des moyens. Mais par contre, alors j'ai mis vraiment très longtemps. C'était Adeline Lecallier qui avait produit ce court-métrage.
Ah, donc tu trouves, t'as quand même.
Ouais, j'ai trouvé une productrice que j'ai trouvée justement au Festival de Clermont-Ferrand. Et puis
donc
ensuite,
les rencontres, les festivals, c'est quelque chose qui est très important.
Là, tu rencontres des gens avec qui tu vas faire le court-métrage, les gens qui produisent, la personne qui va produire le court-métrage.
Ouais.
Donc c'est vraiment
et
une
puis
entrée,
aussi les gens qui financent, parce qu'il y a eu, c'était déjà Canal+, à l'époque c'était le début de Canal+, en fait c'est les premières années de Canal+.
Canal qui relance les court-métrages d'ailleurs, qui relance une chaîne de court-métrages, il relance carrément une chaîne de court-métrages.
Ok, hein. Je savais pas.
C'est fou.
Et à l'époque, c'était Patrice Bauchy, moi, qui m'avait donné un prix pour mon autre court-métrage In Transit. Donc, il m'avait donné un prix pour pouvoir faire un deuxième court-métrage. Donc, lui, il m'a beaucoup aidé. Il y a une femme qui s'appelle Sylvie Blum, qui, à l'époque, travaillait à l'INA. Et c'était le début d'Arte. Enfin, c'est drôle, c'est le début d'Arte, le début de Canal+. Et c'est Thierry Garel, qui dirigeait les documentaires chez Arte, qui met l'argent. Donc, en fait, Adeline Lecallier, la productrice, a... par le biais de Sylvie Blum, qui travaillait chez Arte déjà.
Du coup, à la question comment on fait, dans ton cas, c'est j'ai fait une école dans laquelle on m'a donné les moyens de faire un premier court-métrage, que j'ai pu présenter à des festivals qui m'ont donné l'occasion de rencontrer des personnes qui ont bien aimé ce que je faisais, qui du coup se sont mis à travailler avec moi, à financer le truc, ce qui m'a permis de faire Ce qui me meut.
Ouais.
Et ensuite, ça s'enclenche comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est un petit château de cartes, quoi, parce que...
Ce qui me meut, lui, il repart en festival.
Ouais, c'est ça.
Et ainsi de suite.
Okay. Et Ce qui me meut, alors là, il a gagné, je sais pas, une quinzaine de prix, dont certains à l'étranger. Le premier prix à Clermont-Ferrand.
Oui, parce qu'il faut être bon aussi.
Oui, il faut être bon.
Dans l'histoire, il y a aussi... Oui, on a oublié de préciser. En même temps, il faut présenter des trucs.
Moi, j'ai tout fait.
Bah oui, mais il faut qu'il soit bien, ton court-métrage.
Bah oui, mais il était très bien. J'ai filmé
Non.
Un orange.
Après, il faut gagner 15 prix dans l'histoire.
Ah, oh.
Ouais, mais tu demandes comment devenir Cédric Clapiche.
Ouais, bah oui, bon.
Il faut gagner des prix.
C'est la question. Ouais. Bon, je vais essayer de faire un truc bien.
Super.
Mais c'est vrai que je repense souvent à ce moment-là. Et ces gens-là, mais tu as raison, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés grâce à ce premier court-métrage, qui avaient bien aimé le court-métrage In Transit. Chaque chacun d'entre eux, notamment ces trois-là, Patrice Bauchy, Sylvie Blum et Adeline Lecali, ma productrice, je serais pas là sans eux, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment les gens qui aident à l'impulsion.
L'étincelle,
ouais. Ouais.
Je voudrais revenir sur un truc quand tu dis pendant 2 ans, je le monte. Parce que quelle est la différence entre toi qui as fait un court-métrage, parce que des gens qui font des écoles, il y en a beaucoup et tout, mais qu'est-ce que pendant 2 ans, comment tu arrives à garder la motivation? Parce que là, tu me dis, t'es complètement obsédé par le court-métrage, c'est comme une idée qui t'obsède.
Ouais.
Dans ta tête, tu te dis, ça, il faut que ça aboutisse, parce qu'à un moment donné, il y a 1000 raisons d'arrêter.
Ouais.
Parce
ouais.
que personne t'attend.
Tu bosses à côté ou genre t'as un.
Ouais. Je crois qu'à l'époque, j'étais électricien sur des tournages, en fait. J'ai essayé d'être.
Tu bossais quand même dans le milieu, quand même.
Grâce à l'école aussi? C'est-à-dire que tu as une ligne sur ton CV de « j'ai fait cette école ».
Alors, grâce à l'école, parce que je savais utiliser l'éclairage de cinéma et qu'il y a un copain producteur qui me met stagiaire. Au début, c'était machiniste. Puis en fait, il voit que c'est mieux que je fasse électricien, parce que je connais mieux.
Cédric.
Arrête.
Ouais, arrête. Va plutôt
lâche ce truc, va brancher les câbles.
Va prendre un café, là, franchement.
Mais donc voilà, et puis j'ai fait ça pendant 3 ans quand même. Donc en fait, ce qui m'a permis de gagner de l'argent et notamment de toucher les acédiques et de pouvoir me mettre au vert pour pouvoir écrire, c'est vraiment en faisant ça, quoi. Ouais. Et puis j'ai commencé à être réalisateur pour des émissions de télévision, donc j'ai fait des petits sujets, des trucs qui. Des portraits d'une minute ou des trucs comme ça pour des magazines. Donc ça a été ça un peu mes petits boulots dans les 5 années avant que je fasse vraiment des films, quoi.
Donc il y a un truc très important, c'est se mettre en situation. C'est-à-dire que c'est les écoles, comme tu vois, pour reprendre ce que tu as dit, Navo, c'est juste l'école, en fait, c'est quand même le moment où. C'est un peu le prétexte, on fait semblant de faire ce métier, mais quand même, on se réunit avec plein de gens qui ont la même envie et de créer un peu. C'est comme, tu vois, ça va dans n'importe quel métier, justement. C'est un peu les castes, j'ai envie de te dire. On rentre, on crée cette caste un peu de gens qui font le même métier, et c'est ça qui va créer un peu ton...
Plus une réunion de podcast, il y a un côté supérieur,
un peu inférieur. Oui, il y a un côté un peu élitiste, ouais, j'avoue.
Non, c'est plus caste, c'est un peu méchant, regroupement. Ouais. En fait, tu te regroupes entre gens qui ont la même passion.
Tu te regroupes entre gens qui ont la même envie.
Là, oui, mais en même temps, moi, comme j'avais fait ça à New York, moi, quand je suis revenu en France, ça a été un peu difficile parce que les gens me disaient, mais t'as fait des études à New York, pourquoi t'es pas resté là-bas? Donc, il y avait un côté un peu genre, qu'est-ce que tu fous là? Et c'était pas facile à ce moment-là. Et du coup, en plus, moi, je connaissais personne, puisque moi, les gens que j'avais, avec qui j'avais fait des courts-métrages à New York, c'était des gens qui étaient étudiants là-bas. Et je gardais un contact avec des gens de là-bas. Mais du coup, je connaissais personne, quoi, en France. Donc, ça a été difficile.
Du coup, t'arrives à situer le moment. T'arrives avec ta petite valise depuis New York.
Ouais.
Ah, bah, je connais personne. Il se passe quoi pile à cet endroit-là? Je suis chiant, mais c'est parce que c'est ça que les gens, à chaque fois, ils disent « Mais vous dites pas précisément !» À chaque fois, c'est
«
Oh, j'ai fait une école, tac-tac-tac !»
C'est le tac-tac-tac qu'on veut savoir.
Voilà, j'ai un copain avec qui j'étais au Club Théâtre au lycée Rodin qui fait ses études de chef opérateur. On se revoit, on se dit «
Ah, ok,
si
donc t'as quand même un Français qui avait la même passion que toi, qui lui était resté en France. »
Qui me présente des gens qui vont ensuite être machinistes sur le court-métrage.
J'ai niqué ta success story où t'es arrivé, tu connaissais personne.
Non,
tu poses une question, t'as fait.
Non, mais
bon, après, j'avoue, je connaissais
un gars. Tout le monde m'a dit non.
Bon, c'était un fils de producteur, il m'a dit « Viens manger à la maison. »
Non, mais après, il y a cette Adeline Lecalier, donc c'était les productions Lazenec. Qui me présente des gens.
Très connus, les problèmes de la ZNEC dans les années 90. Que hyper
important. C'était vraiment des gens qui faisaient des courts-métrages, qui ont fait démarrer Kassovitz ou
c'est ça.
Eric Rochand, Christian Vincent.
Ceux qui ont fait popper tous les réalisateurs des années 90 qui ont fait le film pendant 30 ans.
Non, c'était vraiment une production assez importante. Dans le monde du court-métrage, c'était vraiment important. Et donc, voilà, quoi. Ça m'a permis, effectivement, c'était vraiment petit à petit où je rencontre des gens. Et
fallait être sympa. T'étais sympa.
Ouais, après, il y a plein de réalisateurs pas sympas.
Parce qu'ils ne sont pas arrivés de New York et qu'ils n'avaient personne à qui parler.
Non, mais il y a un truc aussi.
Trois réalisateurs que tu connais bien et qui ne sont pas sympas, des vrais réalisateurs.
On veut de l'info, bien sûr, une bonne info.
Bienvenue dans En Exclu, les trois personnes, ce sera la vignette, les trois personnes que Cédric déteste.
Je ne vais pas le dire ici, je ne devine pas les collègues. Mais non, il y en a.
Non, parle-nous des gens sympas surtout. Parle-nous des gens sympas.
Non, mais le truc, c'est qu'en fait, le truc qui aide, c'est que moi, je viens avec un film, une transit, ça durait, je crois, 10 minutes. Je monte ce court-métrage et il y a des gens qui, du coup, ont envie de travailler avec moi parce qu'ils aiment bien ce court-métrage. Je pense que c'est la fameuse carte de visite.
C'est faire pour faire, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Faire pour faire. de pas se, et puis de ne pas se dévaloriser sur un court métrage d'étudiant, ça peut vraiment ouvrir des portes derrière.
Ouais, ouais, c'est pour ça, moi, d'ailleurs, que pour les jeunes réalisateurs, pour les trucs genre Festival Nikon, ou, quand on fait un film de 2 minutes, ce qui est fou, c'est que moi, j'ai déjà été jury 2 fois dans ce festival. En 2 minutes, on voit que quelqu'un a quelque chose à dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être réalisateur. Et
tu n'as pas besoin d'un truc d'une heure et demie pour te rendre compte qu'il y a un truc à faire.
Et qu'il y a un langage, il y a une envie, il y a des choses comme ça. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment commencer avec des petites choses. Et puis, au fur et à mesure, il y a une boule de neige. Quoi.
Est-ce que quand tu arrives de New York, tu es un peu Xavier qui arrive à Barcelone ? Tu connais pas trop de monde à Paris.
En fait,
tu galères un peu.
Genre, le monde du cinéma
devient Barcelone.
Il regarde les festivals.
La scène de Xavier qui arrive à Barcelone, elle est inspirée de moi qui arrive à New York et où je connais pas la ville et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment très pompé de ce que moi j'ai vécu à New York.
Mais regarde la métaphore, moi, ça, je l'ai comprise. Toi qui rentres au cinéma, toi qui arrives dans le monde du cinéma en France, est-ce que c'est comme Xavier qui dit putain, je ne connais rien encore de Barcelone? Mais je sens que je vais rencontrer des gens, qu'il va se passer des choses.
Oui, après, c'est effectivement, il y a le truc de la découverte, quoi.
Ouais, t'appelles des gens qui répondent pas, t'as un plan, quelqu'un va voir, et puis en fait, c'est un plan galère.
T'as un plan appart, mais voilà. Pas ouf.
Après quelques années, tu seras vraiment allé en Espagne.
Ouais.
Rejoindre ta sœur, je crois.
En fait, c'est avant de faire l'Auberge espagnole.
C'est ça.
Ça doit être 10 ans après avoir fait ses études à New York.
Ouais.
Où je vais rendre visite à ma sœur Marianne, qui habitait un appartement avec tout le monde qui parlait une langue différente. L'inspiration de l'Auberge espagnole, elle vient beaucoup de ce que j'ai vu pendant une semaine chez elle. Ouais.
Parler de soi.
Moi, je voulais faire un film sur un étudiant qui part à New York faire des études de cinéma.
C'est vrai, tu voulais faire ça?
Et en fait, quand je vois l'appartement de ma sœur où il y a ce truc Erasmus, je me dis c'est beaucoup plus intéressant de parler de sa génération, elle a 7 ans de moins que moi, et de parler de l'Europe et de... C'était vraiment drôle, parce que moi, je voyais qu'il y avait des fêtes Erasmus à Barcelone, et c'était des fêtes où il y avait des Suédois, des Italiens. Et je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment un nouveau truc qui se passe, et je préfère parler de ça plutôt que de parler de ce que moi, j'ai vécu à New York. Et donc, cette transposition, elle était vraiment importante quand j'ai fait l'Auberge espagnole, parce que je parle de moi, mais je vais faire un travail de documentation, un peu comme j'avais fait ce que je vous ai expliqué sur Étienne Jules Marais, où je suis obligé d'aller dans des bibliothèques, étudier des trucs que je ne connais pas et tout ça. Là, je passe du temps à me documenter. C'est le début des blogs. Donc, je passe pas mal de temps à regarder des blogs de gens qui sont partis en Erasmus et où je chope l'histoire du frigidaire, par exemple. C'est un mec qui avait écrit un truc sur le frigidaire, sur le fait que c'était compliqué de partager le frigidaire. Donc, ce travail de documentation, finalement, depuis mon premier court-métrage, je le fais, quel que soit le sujet que je traite, sur le fait que quand j'écris une histoire, je suis obligé de me documenter d'une façon un peu journalistique ou d'une façon un peu universitaire pour connaître un sujet que je ne connais pas, quoi.
Donc là, tu te documentes actuellement sur les années 1900.
Absolument, ouais, je me documente beaucoup d'ailleurs sur qu'est-ce que c'est Paris en 1900 ou la Normandie en 1900, parce que ça se passait un peu entre les deux. Ouais.
Mais du coup, j'ai une question.
Vas-y.
Tu as fait un blanc, je peux poser une question.
Vas-y.
Du Père il est jeune jusqu'à aujourd'hui, Salade grecque, il y a un truc que je trouve intéressant, et je ne sais pas si tu sais d'où ça te vient, c'est cette passion pour la jeunesse. Parce qu'autant à l'époque du Père il est jeune, on pourrait se dire, bon, il pioche dans un truc d'il y a...
Oui, là, c'était clairement sur ma jeunesse.
Il n'y a pas très longtemps que lui, il a vécu. Ouais. Autant, là, on arrive à Salade grecque, et tu continues, et moi, je trouve que ça continue d'être... Comme tu dis, tu te documentes, etc. Je me dis, il s'est documenté sur la jeunesse d'aujourd'hui, ouais. Même si moi-même, je m'en éloigne. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je me dis, ça fait pas vieux, qui a rien compris. Alors que pourtant, en gros, tu continues de parler de gens qui ont grosso modo la vingtaine, à plein d'étapes de ta vie. Tu vois, tu ne nous fais pas un film sur un mec de 50, 60 piges, tu vois.
Ouais.
Est-ce que c'est quoi ce rapport à la jeunesse? Est-ce que tu y a un truc?
En fait, c'est drôle parce qu'on m'a souvent posé la question pourquoi vous faites toujours des films sur les
gens jeunes. Je suis pas original. Excuse-moi.
Je trouve que t'es pas très original. Moi, je trouve.
Non. Par contre,
mais c'est plus pourquoi.
En fait, c'est pas l'intérêt des gens jeunes. C'est le fait que j'aime bien travailler avec des acteurs jeunes. Donc, c'est pas forcément sur les gens dont je fais le portrait. C'est que je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux acteurs, d'aller chercher des gens comme Megan Northam dans Salade grecque ou comme Alyosha Schneider, des gens qui n'ont pas encore une carrière et où, du coup, il y a une envie, un enthousiasme, il y a quelque chose que moi, j'adore filmer. Donc, ce n'est pas tellement le goût de la jeunesse que j'ai envie de portraiter, c'est le goût des jeunes acteurs où j'aime bien filmer ce qu'ils sont. Quoi.
Ah, c'est pas tant le sujet
ouais, du c'est
film
ça, ouais.
que les acteurs qui vont se retrouver dans ton film, ah, si le sujet, c'est des jeunes. Quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que... moi, je sais que je pourrais pas faire un film avec Alain Delon, par exemple. Ce qui me fait peur, en tout cas, peut-être c'est ouais. faux, hein, d'ailleurs, mais il y a un côté blasé, disons, ouais. et que j'ai pas envie de me retrouver avec ça. Et donc, j'ai envie de me retrouver avec de l'énergie.
Tu penses que le fait d'arriver avec plusieurs films, ça peut éteindre une certaine flamme ?
Ah oui.
Ah oui, tu sais que tu as manqué.
Un peu cramé quand même, ouais.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, je trouve, ouais. Et il y a des gens qui arrivent à garder l'esprit. Il y a des gens de 80 ans qui sont jamais cramés. D'une certaine façon, Lynn Renault, qui est une des plus âgées, elle a la niaque, elle a l'esprit. Donc, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas ça. Mais en tout cas, c'est
est-ce que c'est une occasion aussi de donner le plaisir aussi de donner de la chance et de l'énergie
À des gens qui arrivent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais même, c'est presque la motivation principale qui me fait que je vais faire 10%. C'est-à-dire que dans 10%, je savais que c'était un gros projet pour la télé, pour le service public, pour France 2, et que c'était la chance. Il y a 90 personnages dans la première saison de 10%. Je savais qu'il y avait les gens connus, puisque donc il y a Cécile de France, où il y a des acteurs connus qui sont un peu les gens qui appellent, qui sont un peu les stars de la série. Mais les vrais stars, c'est les gens derrière. Et donc, c'est tous les agents qu'on ne connaissait pas bien. Nicolas Maury, Laure Calamy, Camille Cotin, même Thibaut de Montalembert, qui était le plus connu, je dirais. Grégory Montel, Stéphie Selmar. Enfin, tous ces gens-là, ils arrivent. Et pour moi, c'était vraiment...
C'est une motivation.
Ouais, c'est une motivation de découvrir une nouvelle génération. Et c'est un peu ce que vous avez fait, d'ailleurs, avec Bref.
Où oui, y c'est ce qu'on en faisait partie, nous-mêmes.
Oui,
parce qu'intéressant,
bien sûr.
C'est est-ce que, alors c'est possible, hein, vu qu'on t'aime beaucoup et que tu es un rôle modèle pour nous, mais c'est possible que quand on a le jour à 50, 60 ans, on continue de faire des trucs avec des nouveaux comédiens.
Mais je vois tout à fait ce que t'appelles. Je vois tout ce que t'appelles. Bah, après, moi, j'ai toujours kiffé le jus de quand je vois, par exemple, un jeune acteur qui n'est pas vraiment connu, mais ouais. qui donne tout dans une pièce de théâtre et tout. C'est vrai que t'as raison, il y a une flamme.
Ouais.
Tu dis, mais ça. T'as juste à poser une caméra et à le capter, ouais. en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a des gens qui,
c'était
au bout de trois films.
Motivation avec Aurélie Grange.
C'est ça.
Ou notre motivation. On avait la même motivation. Ou même avec Jonathan Cohen.
Avec Jonathan Cohen, on avait cette motivation.
Un peu moins connu à cette époque-là, où on s'est dit, mais il faut trop faire des trucs avec lui, que les gens, ils voient
l'énergie.
Il faut que
les gens le voient, parce qu'il a une énergie incroyable, quoi.
Et du coup, ouais. cette idée presque de transmission, de dire, moi, j'ai un copain, il est super drôle, j'ai envie de le filmer.
C'est ça, ouais.
C'est vraiment ce truc-là, quoi. Et de dire, mais pourquoi personne ne connaît cette personne, quoi.
On rigole trop dans la vie, il faut que les gens rigolent avec nous.
Ouais.
Ouais, okay. C'est ça, exactement.
Avec exception pour Romain Duris, quoi.
Ou lui, non, parce que...
Pas pour son âge, tu continues le...
Après, non, après, il y a des complicités. Moi, Zinedine Soleil, mais dans tous mes films. Romain, ouais. j'ai fait maintenant 8 projets avec lui. Et donc, il y a des amitiés qu'on garde. Il y a plein... Enfin, voilà, Cécile de France, Karine Vierge. Il y a plein de gens avec qui j'ai fait plusieurs film quoi, c'est vrai que la découverte de quelqu'un d'inconnu, en plus il y a une sorte de privilège, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas possible de, là j'ai fait encore, je dis voilà le personnage principal c'est Marion Barbeau, vous la connaissez pas mais elle est bien, il y a plein de réalisateurs qui n'ont pas le droit de faire ça. Donc, moi, j'utilise mon privilège de pouvoir faire ça.
Oui.
Et en me disant, bah, justement, je vais peut-être...
J'aurais écrit un film de Cédric Clapiche, c'est suffisamment vendeur pour
ouais,
compenser.
Ouais, si les gens me font
pas
confiance.
Une tête d'affiche.
Moi, il suffit que je dise, ouais. moi, j'y crois, je pense qu'elle va être bien. Et c'est en tout cas, pour un premier réalisateur ou première réalisatrice, c'est impossible de dire, je vais faire un film avec quelqu'un de pas connu, en star. Quoi. Donc,
sauf si c'est un téléfilm Arte.
Ça
que
peut,
tu commences
ouais,
à faire un...
Ouais. Mais
et que ça devient un succès phénoménal.
Ça devient difficile.
Puisque c'est l'étape d'après de la carrière qu'on est en train de remonter de Cédric. Parce qu'on est d'accord que c'était un téléfilm Arte qui finalement est sorti en salle.
Le Péril Jeune, ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et
ça, c'était un téléfilm.
C'était un téléfilm.
Enfin, c'est ouais. toujours un téléfilm, mais c'est devenu, entre guillemets, un film.
Ouais.
Parce qu'ils l'ont ressorti en salle tellement ouais. le téléfilm avait plu.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas du tout volontaire dès le départ. Et ça a gagné un prix au Festival de Champs-Rousses, donc le Festival du film d'humour. Et là-bas, quelqu'un de Gaumont, Pierre-Ange Le Pogam, voit le film et dit « je voudrais le sortir ». Et donc Gaumont sort le film. Donc c'est un destin totalement improbable.
Totalement à l'envers, en plus.
Ouais, ouais, ouais. Et non, c'est, du coup, c'était une belle histoire parce que, en plus, c'était le début d'Arte. Il y avait très peu d'abonnés, j'allais dire, de spectateurs d'Arte. Et donc, il y a eu, je sais pas, c'est peut-être 500 000 personnes ou 700 000 personnes qui l'ont vu sur Arte un soir. Et puis, c'est possiblement 2 ans plus tard ou 1 an et demi plus tard que ça sort au cinéma. Et donc, du coup, et le film, étrangement, il n'a pas été beaucoup vu au cinéma à la sortie. Il a été vu en VHS, c'est-à-dire que c'était le début des cassettes.
Dans tous les sens. Ouais. D'abord, je fais un téléfilm, après, il passe au cinéma. Et ensuite, quand il sort en cassette, là, les gens disent « mais il est culte, ce film
». Ouais. Non, c'est marrant, ça s'est vraiment passé comme ça.
Il y a des films aussi qui te dépassent selon les succès du pays. Des fois, c'est un peu cartonné dans un autre pays, parce que la culture s'aligne totalement. Par exemple, je pense de Ce qui nous lie, par exemple. Il y a des fois des films qui cartonnent dans un autre pays, parce que justement, la culture se dit « mais attends, c'est quoi ce film ?» Tu as senti qu'il y a eu... Des fois, il y a des accueils qui sont complètement différents selon les pays, parce que tu as eu une carrière internationale.
Alors, c'est pas si différent que ça d'un pays à l'autre. Non, il y a des trucs un peu à l'envers, où, par exemple, Un air de famille, pendant longtemps, c'était le film que j'ai fait qui a le mieux marché, et qui n'a pas du tout marché à l'étranger.
D'accord.
Donc, c'est vraiment un phénomène franco-français... donc ça, c'était troublant, à l'opposé de se dire pourquoi ça marche pas à l'étranger, quoi. Donc les gens, ils disaient c'est très bavard ou c'est lié au fait que c'est difficile à traduire. J'ai jamais bien compris pourquoi. Mais sinon, il y a des films, par contre, Chacun cherche son chat, c'est le film qui a le mieux marché à l'étranger pendant longtemps. C'était le film avant L'Auberge espagnole.
Mm-hmm. Chez les Égyptiens, surtout.
et par exemple, en Hollande, c'était un succès énorme. Ouais. Parce que je pense que là-bas, les gens ont un rapport avec les chats. Où je sais qu'il y a eu un cinéma à Amsterdam où les gens venaient accrocher une photo de leur chat devant le cinéma. Et le cinéma a présenté le film pendant 1 an et demi, je crois. Et donc, c'était devenu une espèce de lieu culte à Amsterdam.
Le temple des chats.
Et donc, voilà, il y a eu un truc avec ça. Ouais. Mais ça, ouais, tu ne maîtrises pas ce genre de truc. Où moi, j'étais souvent au Japon au bout d'un moment quand les films ont commencé à marcher. Et là-bas, alors pareil, Chacun cherche son chat, ça a eu un succès énorme. Peut-être aussi en liaison avec le rapport qu'ont les Japonais avec les chats. Mais oui, il y a des choses comme ça que tu ne maîtrises pas complètement sur comment un film marche. Il y a un truc qui était magnifique à vivre pour moi. Le film Paris, c'est beaucoup sur des histoires de frères et sœurs. Mmh. Il y a Juliette Binoche et Romain Duris qui sont frères et sœurs. Il y a Lucchini et Cluzet qui sont frères. Puis je pense qu'il y a un autre couple de frères-sœurs. Et on présente le film en Chine. Et donc en Chine, c'est un peu surdimensionné. Donc c'est une salle de 2000 places. Et je vois la sortie du cinéma et les gens, ils sont en pleurs. Et du coup, je vois, c'est un film un peu triste. Et donc, j'étais habitué au fait que la fin, ça pleure un peu. Mais là, ça pleurait pas un peu, ça pleurait beaucoup, quoi. Puis du coup, je demande à ma traductrice chinoise, je lui dis, mais je peux savoir pourquoi il pleure à ce point-là. Et puis, du coup, elle interroge 2-3 personnes qui sortaient de la salle. Et en fait, ils disaient qu'eux, ils n'avaient pas de frères et sœurs.
Ouais.
C'était la première génération des gens qui n'avaient pas de frères et sœurs en Chine. Et donc, ils disaient, c'est fou, ça doit être fou d'avoir un frère ou une sœur, quoi. Et en fait, ils pleuraient de ça. Donc, c'était fou de se dire, c'est impossible d'imaginer.
Impossible. L'écriture, impossible de se dire, ça va une résonance, ça va une telle
résonance. Ouais, j'ai trouvé ça assez joli, quoi.
Un air de famille, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Bakri Jaoui.
Ouais.
Qui est une pièce de théâtre culte, d'ailleurs, que je recommande. Vous pouvez d'ailleurs acheter la pièce de théâtre, je crois qu'elle existe encore en DVD quelque part.
Ou est-ce que le film n'est pas. Prenez la
non,
pièce
non,
de
non,
théâtre.
Non, mais parce qu'à la base, c'est une pièce de théâtre qui a été un grand succès.
Ouais, ouais.
Et tu es appelé, je crois,
ouais.
pour faire la réalisation de cette pièce de théâtre dans un bistrot.
Ouais.
C'est toi-même qui a demandé, non ? C'est pas tu les as rencontrés ?
Non, en fait, c'est Daroussin qui a fait l'interface. Okay. C'est-à-dire que moi, j'avais fait rien du tout, mon premier long métrage avec Jean-Pierre Daroussin. Et. Je crois qu'il avait déjà parlé de moi à Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, pour Cuisine et Dépendance. Et puis, je crois que j'étais en train de faire, justement, Le Péril Jeune. Où je pense que je faisais Le Péril Jeune. Et donc, du coup, je n'étais pas disponible. Et du coup, il a dit, mais vous devriez le rencontrer pour un air de famille. Du coup, Agnès et Jean-Pierre m'appellent pour voir la pièce. Et à la suite de la pièce, on se voit tous les trois avec Jean-Pierre Daroussin. Et
comment on se sent quand
et Daroussin, il avait tourné avec toi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ok, donc c'est lui qui a fait le...
C'est lui qui a fait le lien.
Comment on se sent quand t'as Bachir Jaoui qui t'appelle et qui te disent on va faire...
Moi, à l'époque, je ne connaissais pas Agnès Jaoui. Mais par contre, j'étais super fan de Jean-Pierre Bacri comme acteur. Et donc, j'étais content de le rencontrer parce que j'étais très, très, très fan. Et je vois la pièce, j'adore
c'est ça.
La pièce.
Et à côté, tu viens de sortir de la pièce, t'es obligé de faire le film si on te demande.
Et là, mais ils me l'ont dit au resto après la pièce, quoi. Et puis, je leur ai dit, donnez-moi 2 jours. Et le lendemain, je les ai appelés en disant, ouais, je vais le faire. Je me suis dit, je ne peux pas refuser un truc pareil, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'ensuite, depuis, on m'a proposé de faire des pièces, des romans. Je n'ai jamais refait une adaptation d'un truc. Donc, c'est la seule fois où il y a quelque chose que je n'ai pas écrit que j'ai réalisé, quoi.
Oui, c'est vrai,
ouais.
Du coup.
Parce que ça t'intéresse. Il y a eu 10% que j'ai pas écrit, que j'ai réalisé, ouais.
Ou ça, dans Salade grecque, c'est toujours toi qui écris, c'est
ouais,
que tu réalises.
Là, je trouve des scénaristes avec qui je travaille. Et, ouais.
Comment on se sent avec un monstre, un mec dont on est complètement fan comme Bacri sur un tournage?
Ben, faut dépasser le...
Parce que forcément...
Ouais.
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Le premier jour de tournage, tu n'arrives pas en mode... ça, tu vois.
Non, mais après, il y a une complicité très vite avec lui. C'est vraiment des gens qui vous mettent à l'aise. Donc du coup, voilà, d'une part, on a écrit pendant 5 mois, je pense, l'adaptation. Donc je l'ai vu tous les jours pendant 5 mois. Et du coup, ça crée des liens, quoi. Il y a vraiment... Et puis je vois à quel point... Lui, il devait avoir 10 ans de plus que moi. Et je vois à quel point, même s'il a 10 ans de plus que moi, on est très proche dans la façon de fonctionner, dans la façon de réfléchir. Et donc, du coup, ça... Enfin, voilà, il y a un lien qui se fait dans les deux sens, quoi. Et ensuite, quand je vais faire peut-être, il y a encore plus ça avec Belmondo, parce que Belmondo, alors, c'était vraiment quelqu'un de très, très intouchable.
Monstre sacré.
Ouais, c'était vraiment le monstre sacré. Et là, c'est plus difficile avec Belmondo, parce que faut dépasser le fait qu'on met quelqu'un sur un piédestal et qu'on met quelqu'un sur un truc qui n'est pas réel. Donc, il y avait un peu ça avec Bacri, mais ça s'est simplifié, je dirais, assez rapidement grâce au lien que lui crée. Et c'était pareil avec Belmondo. C'est des gens qui savent qu'ils sont un peu impressionnants et qui, du coup, essayent d'enlever le côté impressionnant. Donc, au bout d'un moment, ça...
Est-ce que tu as une anecdote sur Bacri, justement?
Sur Bacri?
Pendant le tournage ou...
Ce qui était impressionnant, en fait, c'était le fait que...
Je suis un enfant.
Les fans de toi, les trop mignons.
Je suis un enfant, j'avoue.
Quand on tournait...
On dirait qu'on lui dit, mais il y a un numéro pour appeler le Cédric Lapiche comme le Père Noël quand t'étais petit. T'as une anecdote avec Jean-Pierre Bacri?
Non, moi, je me souviens juste que... C'est ça qui m'avait beaucoup impressionné, surtout dans les premiers jours de tournage, c'est que si on fait 10 prises, il n'y a aucune prise pareille et je ne sais pas choisir entre les 10 prises. C'est-à-dire qu'il y en a en tout cas 5 où je me dis, putain, c'est génial, laquelle je prends, parce que c'est tout génial et il n'y en a aucune qui se ressemble. Et donc après, c'est beaucoup un travail de la prise d'avant, la prise d'après, enfin le plan d'avant, la plan d'après.
En fait, aucun réal les garde, mais en fait, dans tous les films, il y a toujours une prise où il le fait en chantant de l'opéra. Et en fait, tu peux refaire tout.
Aujourd'hui, il a créé une comédie musicale, les gens ne le savent pas, mais c'est son projet secret dans tous les films.
Secret,
et si on
les
prenait tous les films qu'il a, tous les rushs, on fait une comédie musicale avec Jean-Pierre Bacri.
Ah, j'ai fait, je peux en faire une pour moi, oui.
C'est
on va la pas la garder, Jean-Pierre.
Tu marches,
oui,
pas du tout les délais. Tu conseilles ça à un jeune acteur quand qui est un peu terrifié, tu sais, quand on est un jeune acteur, on arrive sur un tournage, on se dit toujours je vais la faire comme ça la prise et tu fais 6 fois la même prise, tu dis non, vas-y, laisse-toi livre-toi à l'instant,
ouais.
Et on chopera au montage des moments de vérité.
J'en ai parlé hier, j'étais avec des danseurs acteurs. Bon, il y a une phrase que j'ai entendue, malheureusement, je ne me rappelle plus quel acteur américain a dit ça. Il a dit « I don't act, I react ». Et je trouve que c'est presque la phrase
avec
la
cet
plus...
accent-là, il n'est pas américain, je pense. Il est francophone. C'est un francophone, je pense.
Mais je trouve que cette phrase, elle est géniale parce que ça raconte le fait qu'il faut être dans l'instant.
Ouais.
Et que si tu arrives avec ta musique en disant « je vais la jouer comme ça », en fait, tu joues pas avec les autres et que du coup, en fait, tu joues pas, en fait.
Je pense qu'il faut... alors, I react, c'est bien, mais je pense que derrière, il faut beaucoup travailler son texte. Il faut beaucoup le triturer, il faut beaucoup être prêt.
Mais il faut justement être prêt à réagir. Tout ce que tu as préparé.
Voilà. Oublier fait partie du métier, tu vois.
Sinon, ça n'a plus de sens, par contre.
Sinon, t'es juste un mec... C'est juste un branleur qui réagit.
Ça s'appelle une troupe d'impro, sinon.
Ouais, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je suis un boucher. Là, t'as bien réagi, mais c'est vraiment pas du tout le texte, par contre. On va rester quand même dans l'histoire.
Il y a ce film des Grands Ducs qui est incroyable, que je recommande d'ailleurs. Les Grands Ducs avec Jean Rochefort, Philippe Noiret et Jean-Pierre Mariel, qui sont des vieux acteurs ringards sur leur retour. À un moment donné, tu t'as appris ton texte, sinon je joue un médecin. Mais tu connais pas ton texte, mais un médecin, c'est un médecin. Je trouve ça marrant.
Le contraire de ce que tu veux.
Un médecin, c'est un médecin. Il est trop marrant de cette phrase. Allez voir Les Grands Ducs si ça vous fait plaisir. C'est un grand, grand film d'acteur.
J'aimerais bien voir ça.
Ouais, ouais, c'est fou. Si jamais on est un jeune acteur, une jeune actrice et on te croise dans la rue, on te dit quoi pour te dire j'aimerais trop travailler avec toi?
Faut pas forcément le dire.
on t'invite on, parce que y a
non, des... c'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux pas choisir quelqu'un parce que je le vois dans la rue. On dit ah oh, oui, putain, tiens, il a envie de travailler avec moi, j'ai super envie. Non, faut faire confiance au hasard de la vie sur le fait que moi, il y a des fois où, enfin voilà, c'est des hasards quoi. Et après, il y a le casting, c'est-à-dire que moi, si je sais pas, dans 10% quand on cherche le personnage de Camille Cotin. On voit 50 femmes. Il y avait vraiment quelque chose qui faisait que on avait plein de super actrices avec qui, d'ailleurs, avec certaines, j'ai travaillé
ça, par
la suite.
Ça, c'est un vrai truc, d'ailleurs. Je me permets, hein, si vous êtes des comédiens, et j'en connais, moi, des comédiens, je passe mon temps à leur dire. Mm-hmm. Je dis, moi-même, en tant que réal qui a déjà fait des castings, ça ne veut pas du tout dire que tu es nul ou même que tu as raté. Tu peux complètement réussir ton casting.
Bah, moi, il y a eu des exemples connus.
Tu
n'es
pas pris parce que...
Ouais.
Il y a quelqu'un qui correspond mieux pour plein d'autres facteurs.
Ouais.
Mais en fait, tu étais super et on se rappelle même de toi. Juste, tu n'es pas pris dans ce projet-là. Quoi.
Ouais. Moi, par exemple, il y a...
Je ne crois pas trop rater un casting. Tu peux rater un casting,
non,
mais souvent, tu ne rates pas un casting.
Puis c'est ça qui est un peu tragique, c'est que tu peux rater un casting parce que tu n'as pas le rôle. Et moi, je sais que pour ni contre, bien au contraire, j'ai choisi Marie Gillin. Celle avec laquelle j'ai hésité, c'est Cécile de France. Ben, bizarrement, le film d'après que je fais, qui s'appelle L'Auberge espagnole, il y a Cécile de France.
Ouais.
Mais c'était parce que j'étais frustré de ne pas l'avoir pris dans Ni pour ni contre. Et je n'ai pas fait d'erreur de casting. C'était Marie Gillin qui était mieux pour faire Ni pour ni contre. Et donc, Cécile de France était moins bien. Par contre, j'avais très envie de travailler avec cette jeune actrice. Et donc, L'Auberge espagnole, je pense, c'est son deuxième long métrage. Et voilà. Et du coup, on invente un truc. Et puis après, on a travaillé plusieurs fois ensemble et tout, quoi. Donc c'est vrai que elle a dû sentir qu'elle avait raté le casting, et puis en fait elle avait rien raté du tout.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Ouais.
Bah, techniquement tu le rates dans le sens où tu l'as pas eu.
Ouais.
Mais
ouais.
Ça veut pas dire que tu pouvais pas. Elle aurait pu venir te voir après en disant comment j'aurais dû faire.
Ouais.
Mais tu pouvais. T'as fait tout comme il fallait.
Ouais.
Puisque t'étais très
bien.
Et
c'est passé la même chose avec Audrey Tautou d'ailleurs la première fois où que je la vois. Voilà, je la prends pas, puis ensuite je l'ai pris dans L'Auberge espagnole. Enfin voilà, c'est des gens qu'on garde en tête et puis que finalement on revoit.
Oui, c'est ça. Ouais. En plus, oui, des fois tu réussis le casting, mais c'est pas pour le film pour lequel tu as passé
le
casting.
Ouais, c'est ça.
Tu regardes un peu Instagram, les acteurs et les actrices qui jouent, qui font des scènes sur Instagram, du talent, tu regardes ça?
Ouais.
Ça t'inspire un peu?
Ça peut m'inspirer. Maria Valverde, par exemple, qui joue dans Ceux qui nous lisent, je l'ai vue sur Instagram.
Mm-hmm.
Et c'était même pas une scène jouée, quoi. C'était une scène de sa vie à elle, quoi. Et où moi, je cherchais quelqu'un qui ne soit pas français. Et il se trouve que j'ai vu ça, mais c'était vraiment par hasard, quoi. C'était dans le fameux scroll de Instagram où on voit des gens. Donc, il y a eu ça, quoi, ouais.
Faites des trucs. Donc, faites des trucs. C'est un peu la morale de ça. Faites des trucs et... si c'est pas Cédric Clapiche que vous allez rencontrer dans votre vie pour travailler avec lui parce que vous en mourrez d'envie, il y aura peut-être d'autres gens qui sont au même stade de Cédric Clapiche quand il est arrivé de New York et donner envie à ces gens-là aussi, à ces jeunes réalisatrices, ces jeunes réalisateurs qui justement sont le futur.
Ouais.
Intéressant. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, Cédric, dans ta vie? Ou un des meilleurs conseils qu'on t'a donné? Un truc qu'on t'a dit waouh, ça m'a marqué, que ce soit dans ce métier ou dans la vie?
Bah, ce que tu viens de dire, faites des trucs, on me l'a dit autrement, mais. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'il faut faire, quoi. Et il y a un truc, j'en parle beaucoup à des jeunes qui me posent des questions en ce moment. Je me rends compte aujourd'hui que peut-être le truc qui m'a le plus servi, c'est que j'ai fait un atelier d'acteur avec une réalisatrice, un réalisateur, avec Christophe Loisillon et Laurence Ferrara-Barbosa, où pendant 2 ans, je crois, toutes les semaines, on se voyait à 3 réalisateurs. Chacun faisait venir 2 acteurs qui étaient plutôt des élèves acteurs plutôt que des acteurs. C'est des gens pas connus, quoi, qui avaient notre âge. Donc, nous, on avait 24 ans. et où on essayait des scènes. Et du coup, des fois, on écrivait un texte, des fois, on prenait une pièce de Molière, des fois, on prenait un film qu'on aimait bien, on prenait une scène d'un film qu'on aimait bien, on disait, ouais, tiens, toi, joue ça, toi, joue ça. Et, ou des improvisations, on disait, ouais, il n'y a pas de texte, et, vous faites un truc, vous êtes un couple qui s'engueule. Et pendant 2 ans, toutes les semaines, on travaille 4 heures, et on regarde les 2 autres qui travaillent leur texte. Et ce truc-là, je crois que c'est le truc qui m'a le plus appris, quoi. Pour s'entraîner.
Du développement, quoi.
C'est ce que les Anglais appellent le training.
Même pas du développement, parce qu'il n'y a pas de projet au bout.
Non, alors chacun, on avait un long métrage en tête. Donc, il y avait une petite idée de nous aider à écrire nos longs métrages et tout ça.
Je vais tester ce truc-là pour
voir. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, à peu près tous les trucs, on les jette à la poubelle, parce qu'on se dit, ouais, en fait, c'est naze.
De la recherche, mais ça apprend.
C'est de la recherche, voilà.
Mais ça apprend que, justement, quand on écrit un scénario, en fait, c'est pas écrire une histoire en se disant, tiens, voilà, c'est très, très bien écrit, cette phrase-là. C'est donner un texte à un acteur. Et donc, soit c'est jouable, soit c'est pas jouable. Mais ça, on le teste chaque semaine, où on se dit, bah, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut écrire. Et du coup, on voit à quel point il faut qu'il se passe quelque chose entre 2 personnes. Et cette notion vraiment du théâtre antique grec sur le dialogue, le principe du dialogue, sur le fait qu'il y a 2 personnes qui sont pas d'accord et qui vont essayer de se mettre d'accord ou au contraire rentrer en guerre. Ce truc-là, on le teste chaque semaine et ça, c'est très, très instructif, quoi.
Je peux poser une question ?
Bien sûr.
Je peux faire un truc alambiqué avec une anecdote dedans qui n'a rien à voir avec Cédric. Et après, quand je raccroche les wagons, on se dit « Waouh, il est vraiment passé par n'importe où pour
non, non, vas-y, fais ton gueule suspect.
Parce que j'aime beaucoup cette anecdote qui n'a rien à voir avec Cédric.
Vas-y.
Je peux le faire ?
Bien sûr.
Il y a un mec dans Better Call Saul, tu la connais déjà, l'anecdote.
Ah oui,
il y a un mec dans Better Call Saul, je ne sais pas si tu as vu cette série.
Non.
Breaking Bad, tu as vu Breaking Bad ?
Ouais.
Il y a un spin-off qui s'appelle Better Call Saul.
Okay.
Et dedans, il y a un gars qui interprète Mike Ehrmantraut, qui a dû te marquer dans Breaking Bad, qui est l'espèce d'homme de main.
Oui,
et
okay,
ce d'accord. gars-là, je trouve ça intéressant parce que tu dis, ce mec qui joue Mike Ehrmantraut, c'est quoi le rapport dans sa carrière et dans sa vie avec Why I Met Your Mother, qui est une série américaine. Le rapport, c'est que dans la saison 2, apparaît le personnage de Saul Goodman, qui est joué par un gars qui joue déjà dans
Why
I Met Your Mother. Et quand on lui dit, ouais, t'es pris dans Breaking Bad et tout, il dit, moi, je peux pas, le dernier épisode, je serai pas là parce que je dois tourner Why I Met Your Mother. Et là, ils réécrivent en disant, bon, bah, on n'a pas Saul, donc on va remplacer par le personnage de Walt, appelle Saul, et Saul envoie quelqu'un. Et c'est le dernier épisode de la saison 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a ce mec, du coup, qui passe un essai, qui fait le casting pour être un gars dans un épisode de Breaking Bad qui vient juste aider Jesse dans une situation rocambolesque, une espèce de Monsieur Wolf dans Pulp Fiction.
Un homme de main, quoi.
Et il déchire tout. Et du coup, comme ils sont en fin de saison et qu'ils sont en train d'écrire la suivante, ils disent « Non, mais il faut qu'on le fasse revenir, ce gars. » Ils le font revenir dans Breaking Bad. Et parce qu'il revient dans Breaking Bad, et qu'il commence à avoir un rôle de plus en plus important, quand ils font le spin-off qui dure 5 ou 6 saisons, je crois, Better Call Saul, il devient le deuxième personnage principal de Better Call Saul. Ben... Donc techniquement, il a genre 8-9 ans de carrière. Qui se sont faits sur un gars qui n'était pas dispo.
Ouais.
Et c'est là que je raccroche les wagons.
Vas-y.
L'auberge espagnole, si j'ai bien compris, tu le fais parce qu'il y a grosso modo un gars qui n'est pas dispo. Il y a un retardement de quelques mois d'un autre projet.
Alors, je ne me rappelle plus pourquoi. J'étais en train de faire ni pour ni contre, bien au contraire. Ça faisait 2 ans que j'écrivais le scénario. Et je crois que j'ai 4 mois. Et avec Bruno Lévy...
T'as un décalage de 4 mois.
Ouais, c'est ça, il y a un
tu
retard.
Tu devais faire un film temps.
Et je sais plus si c'était un technicien ou un acteur qui peut pas. Et du coup, on tourne pas là où on pensait, mais on tourne 4 mois plus tard. Je me suis dit, je vais pas attendre pendant 4 mois. Et donc, c'est Bruno Lévy qui me dit, tu veux pas faire un film.
C'est-à-dire que t'as 4 mois de décalage, et au lieu de te dire, bon, j'en profite un peu pour aller faire du pédalo.
Pédalo qui est une activité formidable.
Si je faisais un long métrage...
Voilà.
Puisque j'ai 4 mois devant moi.
Ouais.
Et en fait,
parce que souvent, tu racontes cette anecdote, mais je n'arrive pas à me figurer comment tu fais l'auberge espagnole en 4 mois. C'est-à-dire, techniquement, en combien de temps, dans les 4 mois, tu comptes l'écriture ?
Ouais.
Mais du coup, t'écris en 2 semaines.
Ouais.
Putain, c'est fou.
Mais les gens ne croient pas, mais j'écris en 2-3 semaines.
Ta prépa est fait 2 semaines, du coup.
Alors, en fait, si tu veux, tout s'est fait en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, J'écris en 2-3 semaines.
Là, il faut que je commence.
Oui, préparer un film.
Là, j'ai sorti, tu t'es dit,
bah, j'ai fait le casting, les repérages. Ouais. Voilà.
Parce qu'en fait, normalement, quand on fait un film, il y a une phase d'écriture qui peut parfois, des fois, les gens disent.
Si vous dites extérieur rue Barcelone, il faut aller avant le tournage voir la rue.
Là, je parle déjà de l'écriture. Okay, l'écriture, déjà, t'as tout le moment où tu dois écrire extérieur rue Barcelone. Mais après, t'as ce qu'on appelle la prépa qui est hyper importante. Puisqu'en gros, tu as des équipes techniques qui doivent savoir où, quand, comment, avec qui, dans quel angle, pourquoi, la nuit, le jour, tourner. Et tout ça, c'est très, très long. En général, les gens font parfois... J'imagine qu'un dans les longs métrages que tu fais, tu peux avoir 3-4 mois de prépa.
Ouais, bien sûr.
Parfois plus.
Ouais.
Le casting, etc. Là,
tout ça,
tu le rentres dans 4 mois pour faire un film que beaucoup de gens ont vu, qui a très bien marché.
Bah, c'est le film que j'ai fait qui a le plus marché. Ouais. Et
comment tu fais? Donc, t'écris en 2 semaines?
Ouais.
Et comment tu prépares?
En fait, avec le machin que j'ai écrit, évidemment, j'écris pas un scénario, j'écris une espèce de 30 pages, quoi.
Séquencier,
avec des trucs très résumés, et où, avec ça, je me dis, ok, ben voilà, il faut 5 personnages dans l'appartement à Barcelone, donc on va chercher un Italien, un Allemand, et du coup, on part à
rien
Rome.
Rien que ça, déjà. Rien que ça, c'est fou d'avoir trouvé ces comédiens.
Ouais, c'est fou.
Ouais. Mais c'est aussi parce qu'on...
Donc, t'as Cécile de France que t'avais vue dans un présent casting.
Ouais. Romain Duris. Je me dis, ouais, il faut une Belge. Bah tiens,
Romain Duris, tu l'avais déjà. Il était dans le Péril Jeune.
Ouais, c'est ça. Donc, je pars de Romain, en fait, moi. Ouais. Et puis ensuite, je vais en Angleterre en me disant, je sais pas si je vais ramener une fille ou un garçon. Il se trouve que je ramène une fille et un garçon.
Vous serez frère et sœur, ça va cartonner en Chine.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'est lié au fait que j'ai bien aimé et Kevin Bishop et Kelly Riley. Puis il se passe la même chose en Italie, en Allemagne, en Espagne.
Mais rien que ça, normalement, ça prend 4 mois.
Ouais, alors c'est un peu miraculeux. Hein, mais nous, le
comment
truc,
t'as fait déjà pour
en
aller...
fait, c'est, le truc, c'est quand t'as pas le temps, tu
aller en Espagne, en Allemagne...
Quand t'as pas le temps, tu te démerdes, je trouve ça bien.
Ouais. Et donc, nous, on n'avait pas le temps. Quoi. Moi, j'avais une date de tournage pour N'y prendre contre et il fallait que j'ai fini avant. Et donc, il fallait que j'ai... Et donc, le tournage, ça dure 8 semaines, dans mon souvenir. Donc, c'est 2 mois de tournage. Et donc, la préparation, l'écriture et la préparation, c'est 2 mois.
Incroyable.
L'auberge espagnole est possible parce que j'ai fait Chacun cherche son chat. Chacun cherche son chat, c'est un peu la même histoire. Où ça devait être un court-métrage. Et mon producteur, Farid Lawassa, il me dit, attends, ça commence à devenir un court-métrage cher. Est-ce que tu préfères pas faire un long-métrage pas cher plutôt qu'un court-métrage cher? J'ai dit, bah, écoute, donne-moi une semaine. Donc, j'ai réécrit en une semaine ce truc qui faisait déjà 15 minutes. Et puis, j'essaye de le rallonger. Quoi. Et puis, on dit, OK, on essaye. Et donc, avec le même budget du court-métrage pas cher, court-métrage cher, on fait un long-métrage. Quoi. Et donc, c'est vraiment 4 semaines de tournage. Et j'invente des trucs tous les jours. Je réécris le matin les trucs. Et donc, du coup, parce que j'ai fait ça comme ça, on se dit, ben tiens, je peux refaire
possible.
Ça.
C'est ça qui t'a fait te dire, ouais, c'est possible. Ouais. Moi, je trouve quand même l'auberge espagnole, c'est fait en 4 mois.
Incroyable.
Mais ouais.
C'est du pur jus, quoi.
Ouais, c'est un truc d'urgence, en tout cas. C'est genre, j'ai pas le choix, quoi. Enfin, Puis ce qui est fou maintenant, c'est de se dire, Audrey Tautou, c'est son deuxième long métrage.
Oui, c'est ça. c'est pour ça que je faisais mon truc à l'Ambiqué avec les mecs de Better Call Saul. C'est que ça lance des carrières.
Audrey, le premier jour de tournage, elle me dit, j'ai fait un film avec Jean-Pierre Jeunet, j'espère que ça va marcher. Et donc, on a tourné un mercredi. Et donc, le premier jour de tournage de l'Auberge espagnole, c'était la sortie d'Amélie Poulain. Et donc, évidemment, ça a un peu changé sa vie. Quoi. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'après coup, quand j'ai fait d'autres films, où les gens me disent « Ouais, mais t'as toujours travaillé avec des gens connus. » Je dis « Ben non. » Quand j'ai fait l'Auberge espagnole, il n'y a personne qui est connu. Quoi. C'est Romain est le plus connu, il n'était pas très connu. Quoi. Donc,
Ah oui. Parce que, et dans l'ordre chronologique, c'est l'Auberge ou c'est Amélie qui est sortie en premier?
Amélie est sortie avant.
Ouais. Eh oui.
Et puis après, si tu veux, Kelly Riley, maintenant, c'est une star. Enfin, aux États-Unis, c'est fou. Quoi. C'est vraiment devenu une star, quoi. Donc, il y a aussi ça, c'est aussi des coups de bol, ça. C'est-à-dire que moi, je tombe sur des...
Je pense que tu sens bien les gens.
Alors, peut-être.
C'est un de tes talents, faut le reconnaître. C'est, tu sens bien les gens et tu sens la fraîcheur chez les gens et tu sais la mettre en scène et la filmer. Je pense que c'est ça aussi. C'est ça, il y a un talent chez toi de réalisation, de choix des plans et parce que tu fais de la très, très bonne photo. Les gens savent pas, mais allez voir sur l'Instagram de Cédric, à chaque fois, les photos sont hyper cadrées. Même si c'est des photos à l'iPhone, des fois, c'est très cadré, ça raconte tout de suite quelque chose. mais je trouve que tu as un talent, c'est de sentir la fraîcheur des gens. Et comme tu dis, je pense que c'est pour ça que tu vas chercher des jeunes acteurs, parce que tu arrives à avoir la fraîcheur et dire, mais ça, en fait, tu poses ta caméra, tu mets des belles lumières, tu mets tout ça, tu as une belle équipe, mais le jus, il est là.
Alors, je reprends tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur ça, sur les jeunes acteurs. C'est qu'en fait, le truc qui m'intéresse aussi, c'est vraiment pas la jeunesse, c'est l'inconnu. C'est qu'en fait, quand tu vas chercher Cécile de France dans l'Auberge espagnole, c'est qu'en fait, personne ne l'a vu et que tu vas utiliser un personnage qui n'est pas connu. C'est-à-dire que si tu prends aujourd'hui quelqu'un de connu, Gilles Lellouche, ben on sait à peu près comment il joue et on va attendre des choses et tout ça. Et d'ailleurs, quand on l'a, je travaille avec François Civil, par exemple, ou Romain Duris, là, maintenant, le jeu, c'est de pas filmer ce qu'on attend de cette personne-là. Mais du coup, c'est pas du tout le même travail qu'avec quelqu'un, voilà, Camille Cotin dans l'un 10%. Personne ne la connaît, elle avait fait juste connasse. Et donc, du coup, on la connaît comme ça. Mais du coup, il y a cette fraîcheur-là et qui, pour moi, n'est pas complètement liée à la jeunesse. C'est lié à l'inconnu, en fait.
D'accord,
c'est,
je comprends.
Oui, une petite vieille dame que personne ne connaît, hyper forte, seras tout aussi content de...
Bah, dans Chacun cherche son chat, Madame René, c'est quelqu'un de pas connu. Elle a 80 ans.
Ouais. Et tu vas les, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les trucs de fin d'année, des écoles de théâtre.
Ah, les galas.
J'ai été beaucoup avant.
Les auditions.
Ouais, les auditions, des cours.
Non, j'y étais beaucoup avant. Là, disons que j'ai des antennes, il y a des gens qui y vont. Et qui, ouais. Mais c'est difficile pour moi parce qu'il y a un truc d'attente. Et par exemple, là, maintenant, quand je fais un casting avec des jeunes acteurs...
assis dans la salle de...
Ouais, en fait, ça peut les impressionner ou je sais pas quoi. Et du coup, je vois pas la bonne personne, quoi. Donc, c'est un peu compliqué maintenant, en fait.
Tu vas qu'une moustache, sinon.
encore plus grillé, tu sais. Encore plus grillé.
Un chapeau, une moustache, une écharpe.
C'est avec la piche qui avait une moustache.
C'est vrai qu'il y a une question que je pose aux gens qui ont eu des enfants. Tu as eu 3 enfants, c'est pas un secret.
Non, j'ai 3 enfants.
3 enfants, et moi, je viens d'avoir un enfant. Tous les gens qui ont des enfants, je leur demande, c'est quoi le conseil que tu peux me donner ou le truc que tu as compris avec les enfants? Un truc que tu veux me transmettre, parce que moi, je suis devant l'autoroute. Voilà, je vais prendre l'autoroute.
Alors moi, je vais citer une phrase que mon fils Pablo m'a dit quand il avait 3 ans, il a 25 ans maintenant, ou 3 ou 4 ans. Je lui dis un truc et il me dit « Papa, je ne suis pas toi, je ne pense pas comme toi.
Wow. »
À 3-4 ans.
Ouais.
C'est là, ouais, frérot.
Et ce qui était fou, c'est quand il m'a dit ça, il avait raison en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu à quel point j'essayais de lui dire un truc, parce qu'il y a des fois, on lui dit « Ouais, mais pas la main dans la porte » ou on dit des trucs où c'est bien qu'il écoute l'enfant.
Ouais,
quoi.
C'est bien. Ouais.
Mais il y a des fois où on dit des conneries, quoi. Et où, effectivement, une personne qui n'est pas toi, elle va pas penser comme toi, elle va pas être comme toi.
À 3-4 ans.
Mais ouais.
Normalement, faut avoir 35 ans, 10 ans de thérapie pour commencer à envisager la possibilité que les gens pensent pas comme toi et sont pas comme toi.
Et moi, j'ai compris ce jour-là. Et puis après, tu n'arrêtes pas parce que c'est encore pire à 23 ans, 25 ans quand tes enfants, ils sont comme ça parce qu'ils pensent vraiment pas comme toi et te le font comprendre. En fait, il y a vraiment des choses que tu apprends à tes enfants et il y a des choses que tu apprends de tes enfants. Et il faut être juste ouvert à ça. C'est qu'en fait, ça va dans les deux sens. Ça va pas que dans un sens, quoi. Et donc, il faut être ouvert à ça très tôt. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses où tu vois bien que avec sa personnalité d'enfant, ben, il va être très joyeux ou très triste ou très enfermé. Il va beaucoup parler. Voilà, c'est pas toi qui lui as appris ça, c'est lui qui est comme ça, quoi. Et donc, tu acceptes cette chose-là, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un truc que moi j'ai appris avec mes enfants. Où, en plus, quand t'en as 3, tu vois que les 3 ils se ressemblent pas, et donc t'acceptes ces 3 êtres-là, quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose, l'apprentissage de être parent, où c'est pas juste apprendre à bien dire les choses aux enfants, quoi.
Quelqu'un m'avait dit, ça ne sert à rien d'être un parent. Il faut juste être là et à l'écoute sur le
moment.
Oui, alors
ça, c'est l'autre...
Joue pas le parent, en fait. Arrête de jouer le parent. Commence pas à faire le papa, tu vois. Genre, non, tu sais, dans la vie, tu vois. Au contraire, sois juste là pour eux.
Ouais, parce que être là, c'est sans doute la meilleure chose. Juste être là. C'est que tu es à côté du toboggan, tu lui dis pas ce qu'il faut faire, tu es à côté du toboggan.
Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ou aller bien?
Moi, j'ai l'impression qu'il faut juste être à l'écoute de où on en est. Donc, il y a des fois où je suis trop crevé. Pour aller mieux, il faut que j'arrête.
Okay.
Et il y a des fois où je travaille trop et où dans ma famille, on me dit « Dis donc, t'es pas là, quoi. » Et donc, du coup, il faut être là, justement, pour les enfants, pour ma femme. Donc, c'est juste être à l'écoute, en fait, pour soit aller bien soi-même parce qu'on ne s'écoute pas assez, soit être à l'écoute des autres pour aller bien pour les autres aussi, quoi. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais ça, ouais.
Ok.
Mais... Savoir prendre une pause.
De quoi ?
Savoir prendre une pause.
Savoir prendre une pause ou au contraire travailler. Et des fois, on va bien parce qu'on travaille beaucoup. Moi, je pense qu'il y a eu des périodes dans ma vie, là, ce qu'on raconte sur l'auberge espagnole, j'en ai fait trop. Et c'était super de faire trop. Donc, je ne regrette pas ces trucs-là. Et c'était des moments délicats. Mais c'est vrai, il y avait un producteur qui m'avait dit « Tu n'as pas d'enfant, profites-en. » Et bon, à l'époque, j'avais déjà deux enfants. Mais justement, je n'avais pas encore pigé.
T'as pas d'enfant, profites-en.
Comment ça va? Je viens d'avoir deux enfants. Ouais, t'as pas d'enfant, toi, profites-en.
T'es parrain d'un des deux, quand même.
Non, c'était au moment, en fait, je faisais un air de famille et en même temps, chacun cherche son chat. Et il m'avait dit ça parce que je faisais deux films à la fois. Je me disais, mais je suis taré, quoi. Et en fait, il m'a dit, voilà, tu n'as pas d'enfant et tu peux faire ça, en fait. C'est juste un truc d'être pris dans une espèce de frénésie de travail, tout ça. Et c'est vrai que dans ce moment-là, c'est moins grave, quoi. Et après, effectivement, en faisant l'auberge espagnole, j'ai vu à quel point. Après, il a fallu que je ralentisse un peu le truc. Mmh. Parce que là, il y a eu trop de trucs à la fois. Quand je faisais l'auberge espagnole et Ni pour ni contre, un peu en parallèle, c'était compliqué, quoi.
Est-ce que du coup, tu te retrouves avec le montage de l'auberge, etc., pendant que tu tournes?
En fait, je fais les deux montages en même temps.
Ah oui, ça se chevaut.
C'est-à-dire que quand je dis 4 mois pour faire l'auberge espagnole, c'est sans le montage. C'est-à-dire que je tourne l'auberge espagnole.
Bien. Ah, et le montage, c'est... Ah non, mais 4 mois, il sortait en salle.
Et ensuite, je tourne Ni pour ni contre, bien au contraire, et je fais les deux montages en même temps, en fait, enfin, en parallèle.
Est-ce que tu as passé un bon moment, Cédric?
Oui.
J'en mets. On termine toujours par des recommandations artistiques, des choses que tu as peut-être écoutées, entendues, vues. Un acteur, une actrice, un talent, quelqu'un que tu aimerais recommander en disant ça, j'ai écouté ça, c'est génial. Ou est-ce que tu veux un podcast ou un compte Instagram? Un compte TikTok, t'es sur TikTok?
Non, je suis pas sur TikTok.
Pas sur TikTok.
Non, je suis beaucoup sur Instagram. Il y a des films. Moi, je trouve que vraiment, il faut aller voir des films, quels qu'ils soient, parce que moi, je suis aussi cofondateur de la Cinéthèque, lacinéthèque.com, qui est un site pour voir des vieux films. C'est des films qui ont plus de 15 ans. Et c'est des films suggérés par des réalisateurs. Donc,
les films de plus de 15 ans, c'est des vieux films maintenant?
Bah ouais.
Oh, mais qu'on est tellement vieux.
Bah ouais.
Spider-Man 1, c'est un vieux
Matrix,
film.
Matrix, c'est un vieux film. Genre,
ouais, et puis là, moi, tu vois, le Péril Jeune, ça a 30 ans. Je viens de faire la restauration du Péril Jeune.
Péril Jeune, ça a 30 ans.
Ouais. Et oui.
Maintenant, tu peux dire ça a 30 ans. Et ouais, t'étais là à la sortie. C'est ça le truc.
Ouais, voilà. Mais donc la roue tourne. Et c'est vrai que les films qui ont plus de 15 ans, 20 ans, ils sont hors commerce. Toutes les plateformes, genre Netflix, Amazon et autres, ne jouent que sur ce qui vient de sortir. C'est sur l'idée de la fraîcheur. Là, c'est vraiment intéressant. La Cinéthèque, c'est vraiment un site qui
si on s'abonne, on paye un truc.
C'est soit
c'est
SVOD ou VOD.
C'est 150 euros par mois.
Et il y a 2000 films dans la liste et quand on est abonné, on a droit à 10 films et à partir de septembre, ça sera à 30 films.
Et on s'est recommandé par des réalisateurs du coup,
ouais.
Des réalisatrices.
Et donc, je crois qu'il y a 100 réalisateurs du monde entier, réalisatrices, qui ont donné la liste des 50 films qu'ils préfèrent. Et donc, ça va de Agnès Varda à Scorsese, Jacques
Audin. Génial, je ne connaissais pas
c'est vrai?
Ah non, je ne connaissais pas du tout.
C'est donc lacinetech.com, C-I-N-E-T-E-K. Et c'est vraiment super pour voir des films, quoi. Et puis pour même l'idée de la cinéphilie, parce qu'il y a des bonus, donc il y a justement les réalisateurs qui présentent les 50 films qu'ils aiment bien. Souvent, ils font un petit bonus sur, voilà, moi j'ai adoré Citizen Kane, ou j'ai adoré Kurosawa, ou j'ai adoré, La Chèvre. Et donc, ils vont faire un petit film qui fait la pub de pourquoi ils aiment ce film, quoi.
Ouais. Ah, trop bien. Et t'es cofondateur de...
De ça, ouais. C'est à peu près il y a 10 ans qu'on a pensé à ce truc-là. Ça existe depuis 8 ans, si je ne me trompe pas. Et
t'as mis plus de temps que faire l'auberge espagnole pour
ouais.
monter le site.
Ouais,
moi,
ouais,
c'est un
ouais,
peu déçu.
Ouais.
Tu aurais pu
il fait des films beaucoup plus vite que monter des sites internet. En même temps, il n'est pas dev. Hein.
C'est
pas dev.
Ouais. Mais c'est super joyeux parce que nous, à partir du moment où on a eu Scorsese qui a donné sa liste de films préférés, là, il a dit, moi, je ne peux pas donner 50 films. Il a donné deux fois 70 films en disant, ça, c'est les films que j'aime et ça, c'est les films qui m'ont formé. Et donc, il a deux listes. Donc, on lui a dit, OK, OK. Ouais,
OK, Martin, pas de souci.
T'imagines, ça ne se passe pas comme ça, Martine. Il y a des règles.
Je te la raconte.
Pas parce que t'es meuf.
Redescends.
Scorsese, tu redescends un peu. Merci. Tu vas nous faire les 50 et tu fais paillèche.
Mais donc, c'est super intéressant de voir.
Eh ben, je ne connaissais pas et je vais aller voir ça.
Ah, bah ouais, non, allez-y.
Bah, merci pour cette belle reco. Ouais. Navo, tu veux recommander des quelque chose
oui, mais quoi je mais du coup, bah, salade grecque. Parce qu'on en parle, mais moi, j'ai
plaisir,
adoré salade grecque.
Ouais, ça m'a fait super plaisir le message que tu m'as laissé d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai que t'en mets
ouais,
un message.
Ouais,
c'était
ouais.
aussi pour à moitié t'engueuler pour un truc qui se passe, mais que je ne spoilerai pas.
Non, non.
Et je t'engueulais pas vraiment.
Faut pas dire.
C'était une façon de dire que ça m'avait marqué.
Ouais, ouais.
Parce qu'après, tu m'as dit, mais parlons-en. Je suis là, non, mais en fait, je t'en veux pas vraiment. Donc,
non,
salade grecque, très très bien. Et tiens, et double reco, j'ai découvert son nom m'échappe, car il est compliqué, celui qui joue le héros.
Alyosha Schneider.
Tu vois, même quand tu me le dis, j'arrive pas à le dire. Alyosha.
Alyosha.
Et aussi musicien. Et j'ai écouté, il y a des morceaux hyper bien.
Ouais, ouais, c'est très bien ce qu'il fait en musique. Ouais. Ouais. Ouais.
Donc il est aussi musicien. Donc allez voir.
Ce n'est pas juste le frère de Nils Schneider. Il est aussi chanteur.
C'est pas juste un frère Schneider. Voilà, c'est pas mal.
Ouais, c'est top, top, top.
Et Megan Northam, puisque c'est les deux personnages principaux.
Elle chante aussi ?
Non, non. Elle chantait d'ailleurs, elle était chanteuse.
Parce que là, du coup, je me suis dit, recommandation, c'était pas pour éliminer, c'est parce que je me suis dit, ah, mais en plus, j'avais écouté sa musique,
ouais,
elle est
okay.
pas mal.
Ouais, ouais.
Mais elle, j'ai rien vu d'autre.
Non, elle commence à jouer et c'est une super.
De toute façon, tout le monde est super.
Ouais.
Hein,
ouais.
Tu choisis bien les comédiens.
Merci.
Vous choisissez bien, peut-être que tu as une équipe.
Oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est avec Bruno Lévy, avec là, en ce moment, c'est avec Constance de Montois, la directrice de casting. Ouais.
Et toi, Kian, une petite reco ?
Allez, Meghan Trainor le matin. Écoutez du Meghan Trainor, ça met en patate. Voilà,
c'est
ça
quoi
met du bien. C'est une. Elle a fait une.
C'est de la musique ?
Ouais. Elle a fait une chanson qui était assez connue il y a 5-6 ans. Mais en fait, elle met la patate le matin. Ça fait du bien quoi, d'écouter du Meghan Trainor. Donc écoutez Meghan Trainor. Voilà. Une petite recommandation de vitalité.
Et ben voilà.
C'était un plaisir de te recevoir, Cédric.
Eh ben,
tu reviens quand tu veux, si tu as des choses à dire et tout, n'hésite pas, tu es le bienvenu quand tu veux. C'était un plaisir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette émission vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas vous abonner, ça ne nous dérange pas du tout. Il y a plein de choses à regarder sur YouTube, sur Canal, n'hésitez pas à vous balader, voir des trucs, voir des œuvres. Allez sur cinétech.com.
Lacinétech.com.
Allez sur lacinétech.com, il y a plein de films à découvrir. Et puis, si vous avez quelque chose à rajouter, les amis.
Non, abonnez-vous, même si vous vous dites « mais je m'en fous des abonnements », bah du coup, si vous en foutez, abonnez-vous.
Oui.
Parce que nous, ça nous rend un service pour la chaîne. Et si vous ne regardez pas vos abonnements, ça ne change rien pour vous.
Non, parce que c'est bien ce qu'après...
Des fois, les gens disent « mais je m'en fous, moi, des abonnements,
non,
donc je ne m'abonne pas ».
Bien sûr,
bah, abonne-toi si tu t'en fous.
C'est vrai.
Sinon, c'est un peu triste, on est un peu des mendiants de l'abonnement, comme ça. Et tu dis « ah, mais moi, je m'en fous de l'argent ». Fais bah, donne-le-moi, alors.
J'avoue. Prenez soin de vous, bisous, bisous, ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.